Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Notre prochain invité va venir partager avec vous un parcours de vie très singulier qui a peut-être été indirectement guidé par un rêve de gosse, littéralement. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très fort Aram Ekimian.
Bonsoir.
Merci Patrick.
Je vais vous raconter une histoire qui est la mienne. Quand Patrick m'a demandé de raconter une histoire qui sort de l'ordinaire, je pensais que je pouvais peut-être raconter la mienne. Donc, comme mon nom l'indique, je suis d'origine arménienne, né à Istanbul. Et je ne suis pas en France, je ne suis pas la première génération, je ne fais pas partie de la première génération, car mes grands-parents, avec ces trois enfants, ils ont déjà immigré dans les années 20, installés dans la région de Lyon, pour une meilleure vie. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ils espéraient. Ma tante... elle est décédée rapidement de tuberculose. Et puis, mes grands-parents, ben, ils l'ont suivi. Ils ont été emportés par le chagrin. Donc, ma mère et mon oncle, ils sont restés tout seuls, orphelins. Mon oncle, qui avait 18 ans à l'époque, il a travaillé tout près d'ici, à Romans, dans une usine de chaussures. Et ma maman a été placée... dans un orphelinat. Et par la suite, des membres de la famille sont venus chercher pour les ramener à Istanbul, là où je suis né. Moi, je suis né effectivement dans une famille et j'ai grandi dans le cocon familial. Comme tous les Arméniens, j'ai été à l'école arménienne. Et puis, quand je rentrais le soir à la maison, pour me détendre, ma mère me lisait des BD. Mais malheureusement, elle me lisait dans une langue que je ne connaissais pas. Et quand je lui demandais, mais maman, c'est quoi comme langue ? Elle me disait, bah, c'est le français. Et oui, parce que ma mère, elle avait appris que le français, elle savait lire que le français. Mais évidemment, je ne comprenais rien. Puis je me suis dit, peut-être quand je serai grand, j'apprendrai aussi la langue de ma maman. Je suis aussi grandi dans un environnement cinéphile, parce qu'ils étaient tous cinéphiles dans la famille. Et puis j'ai effectivement grandi dans une ambiance de Jean Gabin, de Delon, Belmondo et les autres, en noir et blanc. Et un jour, mon oncle m'a amené voir un film de James Bond. J'étais fasciné par la voiture. Et ça faisait tout. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette voiture. Mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas le définir. Et puis le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais trouvé ce qui n'allait pas. Il n'y avait pas de téléphone de voiture. Donc je me suis dit, bah, c'est quand même un gros manque, alors que j'avais 8 ans à l'époque. Par la suite, un peu avant mes 18 ans, j'ai décidé de venir en France. Continuer mes études, Enfin, je devrais dire reprendre mes études, parce que quand je suis arrivé en France, je ne savais pas parler un mot de français. Et bon, tout allait bien, mais un jour, j'ai appris que l'administration française ne voulait pas de moi, donc il fallait que je quitte la France. Donc, dans le stress, la peur de quitter la France, a fait que j'ai développé une maladie très rare, dont les remèdes n'étaient pas connus. Donc j'ai passé 2 ans de ma vie dans les hôpitaux, pris en charge par une équipe formidable, l'hôpital Henri Mondeur de Créteil, qui ont fait que, dans mon malheur, j'ai pu rester en France, parce qu'ils voulaient que je reste en France. Alors c'était un peu pénible, parce que je passais presque toutes mes vacances dans l'hôpital, avec les mêmes équipes, et y compris mes mercredis après-midi après les cours. Et les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Un jour, je me rappelle, j'étais sur mon lit, puis il y a la porte qui frappe, le psychologue qui rentre. Quand vous avez 20 ans, ça fait drôle. Et la seule chose que j'ai pu penser à ce moment-là, c'est de dire ben, peut-être que la prochaine visite, ça va être le curé. Et puis en attendant, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je vais continuer à empiler mes diplômes. Donc j'ai continué à étudier. Puis au moment, dans les années début 80, les choses se sont allées mieux pour moi. La maladie regressait. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer ma femme, avec laquelle je me suis marié, avant même que je finisse mes études. Et puis, comme par hasard, tout allait rentrer dans l'ordre. Et je me rappelle le jour où je suis parti à la préfecture pour aller chercher ma carte d'identité. J'étais très fier. Et donc, j'ai fini par passer mon dernier diplôme. Puis j'ai été appelé un jour par un chasseur de tête qui m'a dit « Est-ce que tu voudrais bien travailler dans une grande société ?» Je dis « Oui, pour faire quoi ?» Il m'a dit « Pour développer un téléphone de voiture. » Je dis « J'y vais. » Donc, c'était Matra Communication, où j'ai développé le premier portable, le téléphone de voiture à l'époque. On l'appelait portable, mais il faisait quand même 7,5 kg, que vous connaissez certainement, Radiocom 2000. Puis il y avait la version portatif. Il faisait 1,2 kg. Et par la suite, j'ai eu la chance de créer une société en 92. À l'époque, il y avait très peu de gens qui s'aventuraient pour créer sa société. Donc, j'ai eu la chance de créer l'une des premières start-up en France. Effectivement, la seule chose que je savais faire, c'était de manipuler la technologie des téléphones portables. Donc la société a développé les technologies des cœurs de technologie de téléphones portables, qui a eu un développement extraordinaire. On était au départ 3 personnes, au bout de 10 ans on était 1000, on avait des filiales un peu partout. On exportait en Chine plus d'électronique que n'importe qui en France, vendu le cœur de technologie aux plus grandes sociétés japonaises. Bref, tout allait bien. Bon, malgré tout, je voudrais vous avouer que j'ai un grand regret, parce que tout ça fait que j'ai passé presque la moitié de mon temps dans les hôtels et les avions, sans avoir vu suffisamment ma famille et surtout pas vu mes enfants grandir. Enfin, j'ai été voir crois, c'était le week-end dernier, le dernier film de James Bond. Donc évidemment, j'ai vu la fin, la fameuse DB5, mais j'ai constaté qu'il n'y avait plus de téléphone de voiture. Évidemment, le monde est passé au smartphone. Et comme je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai créé aussi effectivement une société pour des smartphones, mais des smartphones spécialisés pour les aveugles, les malvoyants. C'est quelque part, je dirais, rendre à la France ce qu'il m'a permis de faire, de réaliser mes rêves. Je vis actuellement dans le sud de la France, à quelques encablures des tombes de mes grands-parents et à quelques kilomètres de là où ma maman a appris la langue de Molière. Enfin, je voudrais finir ma petite histoire pour vous dire que depuis 30 ans, j'ai voyagé un peu partout dans le monde et il est bien de constater que les valeurs qu'on a en France, dans la République, les valeurs telles que la liberté, fraternité, c'est quelque chose qui est réel et unique. En fait, la France est unique. Et depuis ce qui s'est passé vendredi dernier, je me sens tous les jours un peu plus français et j'en suis fier. Merci beaucoup.
Je vais passer le micro à Ben, qui va vous dire un petit mot.
Salut. Moi, j'ai pas d'histoire extraordinaire à vous raconter. Patrick m'a demandé, comme à une veillée en général, il y a souvent un guitariste qui fait des reprises de Bob Marley ou trucs comme ça. Il m'a demandé de venir lui filer un petit coup de main. Et moi, en fait, pour la petite histoire, j'ai appris à faire de la guitare quand j'étais petit. Il y avait une guitare dans le salon de l'appartement dans lequel on vivait avec mes parents. Et mon père m'avait dit, tu ne touches pas cette guitare tant que tu n'es pas meilleur que moi. C'est dur d'apprendre d'être meilleur que lui sans jouer. Mais j'ai eu de la chance qu'il passe la plupart de son temps dans des hôtels à droite à gauche. Et mon père, c'est Aramé Kimia. Voilà. Et il est formidable, malgré tout. Et on a décidé de jouer des morceaux que tout le monde peut connaître pour qu'on puisse tous chanter ensemble, pour vivre vraiment des moments... Tout le monde raconte des histoires assez extraordinaires. Donc, c'est une soirée pleine d'émotions. En plus, avec ce qui s'est passé vendredi dernier, je pense que c'est important qu'on fasse un truc tous ensemble. Voilà.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only the sky. Imagine all the people. Imagine there's no country.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.